tendu ce espérant Dieu, ça m'a fait revenir 63 ans en arrière. C'était un dimanche soir à l'hôpital de Neuchâtel en Suisse. On était venu me chanter ce cantique parce que le lendemain je devais subir une très grave opération. Et voilà que j'entre maintenant et j'entends espérant Dieu. Ceux qui chantent sont mes amis très intimes, mais notre sœur est malade maintenant, elle a l'Alzheimer, ils habitent Morges, et ça nous fait penser les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Maintenant, il paraît que je dois tenir ma promesse, hein. Je vous ai dit que je donnerai un livre à chacun. Je ne sais pas le message de ce soir. Je ne vous envoie pas dans vos chambres. Et c'est le retour du Seigneur dont je voudrais vous parler. Afin que vous ayez des convictions. Puisque c'est une des grandes doctrines de l'Écriture, et nous devrions être bien au clair sur tout cela. Je vais vous lire quelques textes. Le premier, c'est ce que Jésus lui-même a dit aux siens avant de les quitter. Jean, chapitre 14, verset 3e. On peut trouver aussi ces messages dans « Jésus revient, es-tu prêt ?» Ô Dieu notre Père, donne-moi de pouvoir dire seulement ce que toi tu veux qu'il soit dit. Garde notre mémoire. Tiens-nous près de ton cœur et que le message sorte du sanctuaire et trouve les consciences et les cœurs de chacun ce soir pour nous préparer pour la dernière journée demain, dans ton amour, en Jésus-Christ. Amen. Jésus disait, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures et je vais vous préparer une place. Où nous donne-t-il rendez-vous? Dans la maison de son Père. Au verset premier, il est dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand il parlait à son Père, au chapitre 17e de Jean, il disait ceci. Parlant de ses disciples, Père, verset 24, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc la volonté du Seigneur est d'avoir les siens un jour avec lui. Et ce qu'il a promis, c'est de revenir lui-même. Et il y a plus de 300 textes dans l'Écriture qui nous parlent du retour du Seigneur. Je ne vais pas vous les citer tous, mais nous allons en prendre seulement quelques-uns. Vous savez comment, après avoir souffert la croix, après avoir été enseveli, Jésus est ressuscité le troisième jour, et il a été avec ses disciples combien de jours encore qu'il a été vu? 40 jours. 40 qui est le chiffre de l'épreuve. Et il les a réunis où? Sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem. Et pendant qu'il les bénissait, tout à coup, il est parti. Et les disciples le regardaient. Pour eux, qu'est-ce qui s'en allait au ciel? Leur trésor. Ils étaient là, les yeux fixés vers le ciel. Et à ce moment-là, il y a eu deux témoins qui sont venus, les hommes du ciel, et qui disaient, pourquoi regardez-vous fixement vers le ciel? Ce Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel reviendra de la même manière. C'est au verset 10 du chapitre 1er des Actes. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et ils dirent, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Donc, nous avons la promesse du Seigneur, confirmée par des hommes célestes. Alors, une question se pose d'abord pour nous. Quand reviendra-t-il? Alors, il y en a qui ont voulu mettre des dates. Et ceux qui mettent des dates se sont tous trompés. De sorte que ça suffit pour nous pour mettre de côté leurs enseignements. Ils ont donné des dates qui se sont passées et le Seigneur n'est pas revenu. Alors, nous ne sommes pas impressionnés parce que le Seigneur avait bien dit, chapitre 24 de Matthieu en particulier, que personne ne connaissait le jour et l'heure. Matthieu 24, verset 36. Mais je lirai depuis le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors, si ces paroles ne passeront pas, c'est qu'on peut être sûr de ce qu'il a dit. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Alors, nous le croyons. Pour ce qui est du jour, verset 36, et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais alors, il nous parle de ce qui se passera à l'époque de sa venue. Ce qui arriva du temps de Noé. Pourquoi est-ce que je reviens à Noé? C'est parce que c'est le Seigneur qui nous le dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement, c'est-à-dire à la venue du Fils de l'homme. Et quand vous regardez ce qui se passe, nous sommes comme dans le temps de Noé. Mais pour en être persuadé, il faut lire dans la Genèse ce que nous trouvons au temps de Noé. La violence et la corruption étaient sur la terre, mais en même temps, il y avait des hommes de renom, des génies. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Et nous ne nions pas qu'il y a des génies, hein. Mais en même temps, c'est la violence et la corruption, et on n'arrive pas à arrêter les guerres, malgré l'ONU. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient. Il y avait encore le mariage. Alors qu'aujourd'hui, on est pire qu'au temps de Noé, on est au temps de Lot. Parce qu'au temps de Lot, à Sodome, on ne se mariait plus. On vivait en exaltant l'homosexualité. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez des marches pour les droits des homosexuels. On peut avoir de la compassion pour eux, mais on ne veut plus dire que c'est un péché. Verset 38 et 39. Ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc il y aura une surprise. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Donc, on est dans l'ignorance concernant le jour du Seigneur, de son retour. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il a dit qu'il reviendrait. Et nous sommes sûrs de sa promesse. Alors, ce qui compte pour nous, c'est d'être prêts, c'est de l'avoir reçu. Et alors on a été étonné que j'ai indiqué que le Seigneur nous reprendrait avant la grande tribulation qui doit venir sur la terre habitée tout entière. Et là on pourrait prendre plusieurs textes et vous dire déjà que dans la prière que le Seigneur nous a apprise, comment est-ce qu'elle se termine? Ne nous soumet pas à la tentation. Cette tentation, c'est la tentation de la faim. C'est la tentation eschatologique. Ce grand moment où toute la terre passera par une terrible épreuve. Mais on est étonné que j'ai pu dire que vraiment le Seigneur nous promettait de prendre les siens avant cette heure de l'épreuve. Alors là, il faudrait aussi avoir du temps, mais on a déjà étudié ces choses. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, nous avons un résumé de l'histoire de l'Église sur la terre. Combien d'églises sont citées? 7. La première, qui représente l'Église primitive, c'est Éphèse. Et c'est le Seigneur qui parle lui-même et qui dit ce qu'il voit, ce qu'il pense de l'Église d'Éphèse. Et qu'est-ce qu'il lui reproche? Il souligne d'abord le bien, les bonnes œuvres qu'ils ont faites, mais il dit « J'ai contre toi que tu as abandonné quoi ? Ton premier amour. » Alors, est-ce que nous nous laissons aussi toucher par ça? Est-ce que nous avons encore ce premier amour, c'est-à-dire cet amour qui nous liait au Seigneur quand nous avions compris qu'il était notre Sauveur et qu'il pardonnait nos péchés, qu'il les avait portés et que, aux yeux de Dieu, son Père, Dieu ne s'en souvenait plus et qu'il n'y avait plus de condamnation pour ceux qui étaient en Jésus-Christ. Alors, il y avait un amour, une ferveur, et on aimait en parler autour de nous. Après ce temps d'Éphèse, il est question de Smyrne. Et l'église de Smyrne, c'est l'église au temps des persécutions. Vous savez que dans l'église primitive, il y a eu la persécution. Et le diable, essayant de vaincre l'Église, a cru que en anéantissant l'Église par les persécutions, ce serait fini. Et qu'est-ce que les persécutions font? Elles font croître l'amour pour le Seigneur. Dans la persécution, il y a eu tout un réveil, et dans cette église de Smyrne, elle reçoit au sein des persécutions cette parole du verset 10 du chapitre 2, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable, qui est le prince de ce monde, hein, le prince de ce siècle, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Après ce temps de persécution, quand Satan a vu qu'il n'arrivait pas à vaincre, il a changé de tactique. Faisons une alliance avec les chrétiens. C'est ce qui s'est passé à Pergame, qui illustre le moment de cette union de l'Église avec le monde. Verset 12. Écrit à l'ange de l'Église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Qu'est-ce qu'il est, Satan? Le prince de ce monde. « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Mais, il y a toujours ce mais, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. » Donc, c'est le mélange qui commence dans la chrétienté, le mélange que vous avez pu voir aussi dans les paraboles. Le bon grain est livré. Ça se tient. Puis maintenant, vous arrivez au chapitre 3. L'église de Thyatire, au chapitre 2, verset 18. L'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, verset 18. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres. Et vous voyez, moi je trouve ça, c'est absolument admirable. Il souligne tout d'abord tout ce qui est bien. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Et on a vu là le catholicisme, et on peut dire que c'est vrai que ces dernières œuvres dépassent les premières. Quelle est une des grandes œuvres qui a été accomplie dans le catholicisme dans notre temps? On a donné quoi? La Bible. Avant, vous ne pouviez pas lire la Bible. Et maintenant, la Bible, on dit que c'est le grand livre de l'Église catholique. Hélas. Trois fois hélas, disait De Gaulle. J'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs. Il y a toute espèce de doctrine qu'on a donnée dans l'Église romaine qui ne sont pas bibliques. Et ce qui m'afflige aussi, c'est que maintenant on remet les indulgences en avant. C'est vrai, hein? On remet les indulgences en avant. Et passons plus loin. Après l'église de Thyatire, il y a eu l'église de Sardes. Et dans l'église de Sardes, on y voit l'action des réformateurs. Qui étaient les réformateurs qui ont amené ce qu'on appelle le protestantisme? C'était des catholiques qui ont découvert la Bible dans leur foyer et qui se sont rendus compte qu'on ne vivait pas l'Écriture et qui ont voulu revenir à l'Écriture. ce sont les thèses de Luther, mais en même temps, il y avait un homme qui s'appelait Calvin, en France et en Suisse, Zwingli à Zurich, et puis en Angleterre aussi. Alors, Sardes peut être considéré comme l'œuvre qui s'est faite dans le réveil dit protestant, un retour à la parole. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour vivant, parce qu'on a pensé dans le protestantisme qu'on avait la vie, c'est vrai, mais tu es mort, parce que maintenant le protestantisme, ça proteste plus du tout. N'est-ce pas ? Tu es vivant, mais tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et c'est ça qui est tellement triste, c'est de penser que malgré ce retour à la Bible, après, on a voulu tout expliquer et le protestantisme est tombé dans ce qu'on appelle le rationalisme. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole, hein, parce qu'on entendait la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Donc il y aura une surprise dans l'église. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, il y a toujours un témoignage, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. J'aime beaucoup cette parole, hein, parce que personne n'a été prédestiné à la perdition. Mais ce qui peut arriver, si vous refusez le Seigneur, c'est que votre nom soit effacé. Et au jugement dernier, quand ce jugement viendra, et qu'on ouvrira le livre, et que vous serez jugé selon vos œuvres, s'il y a un espace blanc et que votre nom n'est pas écrit, vous serez jeté dans les temps de feu, et dessous, qui est la seconde mort. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Pour en être sûr, il faut avoir reçu le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas au moment où vous le recevez que votre nom est écrit. Hein. Il était écrit dès avant quoi? La fondation du monde. Alors, ça tient debout. Hein. Vous pouvez être sûr de votre salut. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Si vous avez confessé le nom de Jésus, comme il est dit dans le chapitre 10 des Romains, eh bien, lui aussi vous confessera devant votre Père céleste qui est dans les cieux. Puis, après l'église de Sardes, qui représenterait le protestantisme, vous avez au chapitre 3, verset 7, l'ange de Philadelphie, qui veut dire amour des frères. Voici ce que dit le saint, verset 7, et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est tellement beau de pouvoir être sûr de cela. Si je dois faire quelque chose, il m'ouvre la porte. Si je ne dois pas la faire, il la ferme. Et on n'essaye pas d'enfoncer une porte. Et c'est ça la dépendance du Seigneur. On n'essaye pas d'avoir toutes sortes de moyens pour ouvrir les portes. On est dans la main du Seigneur, prêt à accomplir ce qu'il désire et témoigner là où il nous ouvre les portes. Mais vous ne serez pas compris. Je connais quelque chose. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Maintenant, on voudrait avoir de la puissance. C'est pas ça. Parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. Il y a eu des hommes de Dieu, au siècle dernier en particulier, qui ne pouvant pas accepter ce protestantisme rationalisme, qui venait surtout d'Allemagne, eh bien, se sont réunis Et c'était des hommes de Dieu, des hommes fidèles, et ils se sont réunis entre eux et ont formé des communautés, des assemblées. Mais avec comme centre, qui ? Jésus. Pas tout un système. On en a trop souffert des systèmes. Voici, je te donne, verset 9, quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds pour reconnaître que je t'ai aimé. Ce qui compte, c'est que le monde reconnaisse que nous sommes des aimés de Dieu. Est-ce qu'ils savent ça? Que vous êtes un homme aimé de Dieu? Est-ce que votre vie témoigne de cet amour? Le monde devrait savoir, sans même que vous parliez. Vous devriez pouvoir faire envie. C'est quelque chose de personnel qui doit être connu. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi ou de ma patience, je te garderai de l'heure, pas à l'heure, comme certains l'ont traduit, de la tentation qui va venir sur le monde tout entier pour éprouver les habitants de la terre. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Tout de suite, je viens bientôt. Le Seigneur est toujours comparé à celui qui vient. Il vient, je viens bientôt. Et le commandement que nous avons, c'est retiens ce que tu as. Ce que tu as, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous avez une conviction? Est-ce que vous êtes habité, non pas par quelque chose, mais par quelqu'un? Afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Ce n'est pas une église qui se construit, c'est une église qui descend du ciel, parce que sa vocation est céleste. Nous aurons l'occasion d'en parler. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Puis alors, vous avez la septième église, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Vous pouvez être sûr que c'est vrai. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et vous savez, je me souviens, c'était en 1941, je crois, dans mon bureau à Lézun, où je travaillais comme aumônier au milieu de 3 000 malades tuberculeux, le Seigneur m'a parlé par ce verset. J'étais à genoux devant ma chaise. Est-ce que tu es froid? J'ai dit non, Seigneur. Tu sais que je ne suis pas froid. Alors tu es bouillant? Ouf! Quand on est devant le Seigneur, vous savez, hein, c'est sérieux. Alors j'ai reconnu non, c'est pas ça. Alors tu es tiède? Tu voudrais être vomi de ma bouche? Mais il faut lire plus loin, parce que sans ça vous seriez découragé. Verset 17. Parce que tu dis je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc on reconnaît sa misère. Je te conseille d'acheter de moi. Donc on peut toujours trouver ce qui nous manque. Quoi? De l'or passé au feu, la vraie justice divine. Afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, pour que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ô Seigneur, donne-moi des yeux qui voient. et que je sache me juger moi-même. Dès que quelque chose ne va pas, voici je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Eh bien, si vous pouviez partir avec cette parole aussi, je veux te demander, Seigneur, du zèle, pour que quand tu viendras, je ne sois pas surpris. Alors, après avoir résumé cet enseignement au sujet de l'Église, je vous disais que l'Église finale, elle serait vomie de la bouche du Seigneur. Si vous n'avez que des formes, un attachement à un système, c'est la fin qui sera pour l'Église. Il n'est pas dit que la Odyssée demeure. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand on est sauvé, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on sait que le Seigneur revient. Et je vous invite à lire au chapitre 4, verset 13. Et là, je me souviens toujours de ces moments quand les portes étaient ouvertes pour moi pendant toute une période, la période où Paul VI était le pape, et qu'on est venu me demander d'aller prêcher dans l'Église catholique. Est-ce que j'allais le faire? Bien, je l'ai fait. Ils venaient avec leur Bible. Alors je prenais la traduction de Jérusalem. On pouvait être 300. J'avais pas besoin de payer une salle. J'avais pas besoin de recruter les gens. Les gens venaient pour une étude biblique. Mais alors, les critiques, c'était épouvantable. On ne saluait plus chez les protestants. Parce qu'on avait fait des anti-catholiques plutôt que des vrais témoins du Seigneur. Alors on a fait le vide autour de moi. Et vous croyez que le Seigneur m'a laissé? Je suis encore là. C'est drôle, hein? Il ne nous abandonne pas, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors je m'en remets à lui. Puis alors, on réalise qu'on peut faire l'œuvre du Seigneur avec des moyens très minimes et que le Seigneur ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Alors qu'on entend si souvent ces paroles que l'Église est dans le rouge, l'or et l'argent sont acquis. À moi, dit l'Écriture, et il donne ce qu'il ordonne. Si Dieu ordonne quelque chose, il donne ce qu'il ordonne. Alors, nous lisons maintenant, parce que nous voudrions savoir comment les choses se passent, au sujet du retour du Seigneur. Chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens, après avoir souligné le chapitre 1er, verset 9, on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, vous détournant des idoles pour servir qui? Le Dieu vivant est vrai, c'est une des choses, et pour attendre qui et d'où et pour attendre des cieux. Son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de quoi? de la colère à venir. C'est pas des mots, ça. La colère à venir, la colère vient sur ce monde. Relisez le chapitre 1er des Romains et vous verrez ce que c'est que cette colère. Chapitre 1er, verset 18 des Romains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. De sorte que on est inexcusable, dit Paul aux Romains. Mais je reviens à Thessaloniciens, puisqu'il nous faut avancer. Verset 13 du chapitre 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Qui sont ceux qui dorment ? Ceux qui sont morts. Hein. Afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, vous savez, j'avais une joie quand je prêchais dans ces églises romaines hein, de leur dire ça. Si nous croyons que Jésus est mort, est-ce que vous croyez que Jésus est mort ? Les gens disaient oui. Hein. Dans l'église catholique, on y croyait encore. Hein. Et qu'il est ressuscité ? Oui. Alors donc on les atteignait. Nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus. Donc quand Jésus revient, il amène avec lui qui ? Ceux qui sont endormis. Donc il y a là une résurrection. Et si j'ai dit que j'aimais bien la Bible d'Arby, c'est parce que là, il a mis exactement le terme. Une résurrection d'entre les morts. La résurrection d'entre les morts. Donc il y a des morts qui restent, mais d'autres qui sont ressuscités. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons selon nos idées. C'est ça ? Votre traduction ? Non. D'après une parole du Seigneur. Donc il y a la révélation. Je ne veux pas que vous disiez, Racine dit ceci. C'est pas ça qui compte. Mais vous, est-ce que vous avez des convictions ? Bien, j'en trouvais dans l'église romaine des gens qui, tout d'un coup, disaient, mais c'est vrai. Ils réalisaient la chose. Mais il fallait les aimer. Et vous savez, quand je donnais la main aux gens qui sortaient, j'étais toujours bouleversé. Merci de nous aimer assez pour nous avoir apporté Jésus. Voici en effet ce que je vous déclare, d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, parce qu'il y a une génération qui sera vivante. Et tant que nous n'avons pas été repris, on peut penser que nous serons vivants. De sorte que je dis, je n'attends pas la mort. Vous avez attendu ma mort aujourd'hui ? Parce qu'on dit, il faut bien mourir une fois. Hein. Mais ce n'est pas absolument nécessaire. Parce que nous avons une bienheureuse espérance. Et c'est à cette espérance que nous tenons. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, où ? Dans les airs. Donc il ne revient pas sur la terre à ce moment-là. Il vient seulement dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Alors de nouveau, quand on arrive au chapitre 5, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On a déjà parlé du voleur, hein. Mais est-ce que nous l'attendons comme un voleur? Non, parce qu'on est prêt. Il ne va pas nous surprendre. Mais on s'en réjouit de le rencontrer. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand les hommes diront paix et sécurité, et vous savez, le monde est en train de travailler à cela, hein, pour apporter la paix et la sécurité. Mais quand vous entendrez qu'ils y sont presque arrivés, qu'ils ont signé tous les papiers, vous savez bien qu'ils n'y tiennent pas après, c'est alors que soudainement, la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur une femme enceinte et ils n'échapperont point. Alors, ce n'est pas ça que nous attendons. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons forts, sobres. Comment devons-nous être? Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons, alors nous avons les armes, la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à quoi?
À la colère.
Vous retrouvez toujours ce même texte, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, parce que nous ne sommes sauvés qu'en espérance, nous dit saint Paul. Mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, c'est la nuit, nous vivions ensemble avec lui. Alors verset 11, ainsi exhortez-vous mutuellement, édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Alors, maintenant, je vous demande d'ouvrir vos Bibles au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul va nous donner encore quelques détails, quelques précisions. J'abrège et je lis depuis le verset 20. Du chapitre 15. Maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. D'entre les morts. Hein? Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Si vous voulez savoir comment seront vos bien-aimés qui vous ont devancé, regardez à qui? À Christ. Puisqu'il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Donc il y a plusieurs étapes dans la résurrection, dans ce qu'on appelle la première résurrection. Il y a plusieurs étapes. Alors, dans son rang, il y a d'abord Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ. Est-ce que vous appartenez au Christ?
Oui.
Il vous a invité, venez à moi. Est-ce que vous êtes allé à lui? Est-ce que vous l'avez reconnu comme votre sauveur? Alors, ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra quoi? La fin. Donc, la dernière résurrection, c'est une résurrection des morts, de ceux qui n'ont pas été ressuscités au moment de la venue du Seigneur pour enlever son Église. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne. Ça, vous devez être sûr de cela. Le Seigneur doit régner. Ce n'est pas nous qui allons le mettre sur le trône. C'est lui qui va venir. Il faut qu'il règne. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, c'est qui? C'est le Père, afin que soit tout en tous. N'est-ce pas merveilleux? Quand Dieu sera tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Ça, nous n'allons pas discuter là-dessus. Nous allons plus loin. Verset 50. Ce que je dis, mais ça ne vous empêchera pas de lire ce chapitre. Hein. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise la chair et le sang? C'est nous. Hein. Nous sommes faits de chair et de sang. On ne peut pas entrer dans le ciel comme ça. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Qu'est-ce que c'est que la corruption? Ce sont nos morts qu'on a mis dans la poussière. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est la corruption. Il n'y a qu'à voir les charniers qu'on découvre. Alors, il y a une règle. Puisque la chair et le sang, on ne peut pas entrer comme ça, nous les vivants, dans le ciel. Et ici, quant à nos morts, c'est la corruption. Alors, voici ce que je vous dis. Je vous dis quoi? Un mystère. Et je voudrais bien que vous restiez avec cette pensée qu'il y a dans la parole des mystères. Hein. On a certains renseignements, certaines révélations au sujet des mystères. Mais à première vue, c'est un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, c'est clair, hein? Mais nous serons tous changés. Donc il y aura une génération qui ne mourra pas. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, et les morts ressusciteront, comment? Incorruptibles. Et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Le Seigneur a vaincu la mort, mais elle n'est pas encore engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et l'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours donné. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. On m'a demandé de vous citer des passages, alors je le fais. Maintenant, je vous demande d'aller à Philippiens, chapitre 3, verset 20. Rococo galefico, tetete, tititi, fi. Hein. Alors, vous y êtes à Philippiens, chapitre 3. Je lis depuis le verset 17. Seulement, au point où nous en sommes, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Et pourtant, ils se disent chrétiens, mais au fond, ils marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est quoi? La perdition. Parce que si vous dites que vous êtes au Seigneur, vous devez marcher comme lui a marché. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est quoi? Leur ventre. On ne parle que du manger et du boire. ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et c'est justement cela qui se passe. On met sa gloire. Moi, je suis un homosexuel. Moi, je suis une lesbienne. Et je voudrais qu'on m'appelle père. Vous lisez ça dans les journaux. Il y a deux femmes qui vivent ensemble. Je veux avoir de la compassion pour elles. Il y en a une qui voudrait qu'on dise qu'elle est le père. C'est de la folie furieuse. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et voyez-vous, c'est tellement vrai, ça. On a nos pensées aux choses de la terre. On n'est pas très céleste. Mais verset 20, il y a un contraste. Et il doit y avoir un contraste dans ce monde. Pour nous, notre cité, elle est où? Dans les cieux. De là, nous attendons notre Sauveur. Jésus comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il fera? Verset 21, qui transformera notre corps humilié. Et vous savez, il était bien humilié cet après-midi, mon corps. En le rendant semblable à quoi? À son corps glorieux. Par quel pouvoir? Par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous avez prié, le Seigneur a répondu. C'est pourquoi, frère bien-aimé, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur. Je vais vous citer encore un autre passage dans l'Épître à Tite. Thessaloniciens, Timothée, Tite. Chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce qui a manifesté la grâce de Dieu? Jésus. Elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. Au désir de ce monde et à vivre dans le siècle, ce siècle dont nous parlons, dans le siècle présent, d'une manière sensée, juste et pieuse, ou justement, pieusement. Sagement. Alors, verset 13, en attendant quoi? En attendant la bienheureuse espérance. Donc, il y a une bienheureuse espérance. Et qu'est-ce que c'est cette bienheureuse espérance? C'est d'être enlevé. Ah bon. C'est d'aller vers le Seigneur. Avant cette heure terrible de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. En attendant la bienheureuse espérance et... C'est pas la bienheureuse espérance qui est cela. Mais après la bienheureuse espérance, il y a la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il nous enlève, ça c'est notre espérance. Le monde ne nous trouve plus. Et alors, qu'est-ce qu'on fera? Ben, il y aura forcément même des pasteurs qui n'y croyaient pas à ça, à l'enlèvement. Alors finalement, ils diront, ça s'est peut-être produit. Mais alors, à ce moment-là, il y aura de terribles persécutions contre ceux qui parlaient de Jésus. Ou qui parleront de Jésus à ce moment-là. Parce que quand les vrais croyants seront loin, qu'est-ce qu'il arrivera pour ceux qui restent, qui n'ont pas voulu du Seigneur? Il est dit, une énergie d'erreur, une puissance d'erreur viendra sur eux, et qu'est-ce qu'ils croiront? Au mensonge. Et nous sommes déjà dans cette atmosphère où les gens croient plus au mensonge. Une énergie d'erreur, ils croiront au mensonge. Et parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas aimés. Il les a tant aimés, mais ils se sont moqués de Dieu, on n'a pas voulu de lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, après l'enlèvement des croyants, des personnes qui, n'ayant pas entendu la parole, puisque la parole, elle doit être encore annoncée au monde entier, mais nous, les chrétiens, nous sommes trop compromis dans un tas de scandales. Et il faut que le Seigneur renouvelle les témoins. Et qu'est-ce qu'il va faire? Là, il faudrait encore voir toute la question juive. Il va susciter de ce peuple juif qui a été mis de côté des hommes nouveaux qui se convertiront après l'enlèvement des églises au Seigneur et qui annonceront à toute la terre l'évangile non plus de la grâce mais l'évangile du royaume. Et c'est cela qui est fantastique. L'annonce de l'évangile du royaume. On est sauvé par grâce aussi pour l'évangile du royaume, croyez-le bien. Mais eux, ils apporteront avec fidélité à toute la terre, mais ils seront évidemment persécutés par l'Antichrist. Nous ne voulons pas aller plus loin ce soir. Nous allons nous arrêter là. Et nous bénissons le Seigneur de pouvoir repasser dans nos cœurs ces vérités et de croire que l'enlèvement, c'est l'espérance bienheureuse de l'Église, qui correspond à l'étoile du matin qui se lève avant le soleil. Alors on voit l'étoile du matin. Les croyants seront enlevés. Et alors, quand il revient en gloire, c'est là que nous serons manifestés avec lui. Pour la première fois, on verra la tête et le corps unis. Et vous savez, pour les Juifs, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Et beaucoup se convertiront. Mais ils auront à souffrir par cette grande tribulation. Alors, si je reprends ces éléments, Enoch a été enlevé avant le déluge. Et pour préserver ceux qui devaient passer par le déluge, qu'est-ce qu'il y a eu? L'arche. Et ils ont été dans l'arche, préservés par le Seigneur dans l'arche. Et quand le Seigneur revient en gloire, c'est pour délivrer le peuple d'Israël. Et alors, c'est à ce moment-là, et vous verrez comme c'est clairement dit, parce que quand il vient sur les nuées du ciel, il ne vient pas sur la terre, mais ensuite il revient sur la terre avec son Église, avec les croyants. Qui sont manifestés. Prenons Colossiens, encore un verset. Oui. Je sais, vous devez me supporter, mais. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Jésus disait à Nicodème, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, je voudrais vous parler du ciel, mais quand je vous ai parlé des choses de la terre, vous n'avez pas compris. Alors comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Il en a parlé par ses témoins, en particulier par l'apôtre Paul. attachez-vous aux choses d'en haut, verset 2, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée dans le Christ en Dieu. Mais alors, quand est-ce que notre vie sera vraiment manifestée dans toute sa puissance? Quand Christ, votre vie, paraîtra. C'est à ce moment-là que le monde verra des âmes vraiment rachetées par le Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en gloire. Et bien que le Seigneur bénisse sa parole, que par son esprit elle pénètre dans vos cœurs et que vous deveniez des hommes et des femmes qui l'attendent et qui, en se souvenant du Seigneur, comme nous le ferons, Dieu voulant, demain après-midi, à la fraction du pain, que vous puissiez dire, viens, Seigneur Jésus. Merci d'avoir été patient. Chers amis, encore une fois, ce matin, j'aime à vous saluer dans le nom du Seigneur. J'ai eu une surprise cette nuit, quand je suis venu pour mettre le texte, le mot d'ordre de ce jour, j'ai constaté que quelqu'un avait écrit, je ne sais qui, Ésaïe 41, verset 10. Je ne sais pas qui a mis ce texte, mais ça m'a frappé parce qu'il y a une dizaine de jours, dans un entretien avec une personne un peu accablée qui me demandait un encouragement, je lui avais donné ce texte qui se trouve dans Ésaïe, je ne l'ai pas effacé, 41, verset 10. Mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Peu importe. Vous connaissez le passage. C'est une parole qui contient cette promesse. Et je vous la cite dans Hébreux, non, dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Vous pouvez la faire vôtre. Et ça nous montre que le Seigneur est capable, par une parole, de soutenir ceux qui sont là. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi, je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par ma droite triomphante. C'est beau, hein? Quatre lignes et demie seulement, mais qui contient une plénitude de promesses. Et j'avais donné cette promesse à une jeune fille qui l'a transmise à d'autres personnes déjà, paraît-il, dans la semaine, qui ont été encouragées par cette parole. Alors j'étais surpris de la retrouver écrite là, enfin la citation. Quant à mon texte, mot d'ordre, il se trouve dans Hébreux, chapitre 10, dans la version seconde, il est dit que celui encore très peu de temps est celui qui doit venir, viendra. Darby a traduit celui qui vient. Il est toujours celui qui vient. Alors nous devons l'attendre à tout instant. Et ce n'est pas dramatique de l'attendre, puisqu'on sait qu'il vient pour nous prendre là où il est, car c'est là sa volonté. On a dit que si le Seigneur a dit « une fois je veux », il l'a dit pour qui ? Pour nous. « Je veux », qu'il a dit à son Père, « que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. » Quelle merveilleuse espérance, quelle bonne assurance. « Je veux », dit Jésus à son Père, « que là où je suis, il y soit aussi avec moi. » Et c'est de là qu'il reviendra pour le monde, avec son Église. Parce que lorsque nous nous donnons au Seigneur, lorsque nous nous convertissons à lui, nous faisons partie de son corps et nous devenons des gens du ciel. Notre patrie, elle est en haut. C'est une patrie céleste et tout ce que nous avons à retenir et à vivre sur la terre, nous le recevons d'en haut, du ciel. Et c'est cela que je voudrais vous laisser. Encore très peu de temps, oui. Et celui qui doit venir viendra. Et j'ai été frappé aussi ce matin, parce que je ne le savais pas, mais vous voyez que le Seigneur préoccupe les âmes. C'est l'Étoile du Matin qui a publié cela, et ça vient d'être publié. Je ne savais pas qu'il parlait de cela. De siècle en siècle, par Samuel Goutner, c'est un frère d'Ottawa, et c'est très bien, et au fond c'est un résumé de tout ce que j'ai pu moi-même vous dire. Vous pouvez avoir cela à la librairie d'Ottawa, pour ceux qui le désireraient. Donc ce n'est pas ma doctrine, mais c'est l'enseignement qui a été donné spécialement depuis le siècle dernier. Et qui concerne l'Église de Philadelphie. Encore très peu de temps. Et celui qui doit venir, ou celui qui vient, viendra. Ne trouvez-vous pas que c'est une merveilleuse espérance? Et alors, vous pourrez retrouver dans l'Écriture tout ce qui caractérise ce présent siècle, qui est un siècle mauvais. C'est le siècle où on a tué qui ? Le Seigneur Jésus. Quand on dit le siècle, c'est un âge. C'est dans ce temps-là que Jésus est mort. Et le siècle à venir, c'est le temps où ce Jésus qui est mort, qu'on ne trouve plus sur la terre, mais qui a été ravi dans la gloire, qui est dans la gloire, reviendra du ciel. Et comme nous vous l'avons dit hier, en un instant, les morts en Christ seront ressuscités, et nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous aurons une participation dans l'administration de son royaume. C'est pourquoi le temps présent est un temps aussi unique pour être préparé, pour être formé. Et cette formation, nous l'avons par la parole de Dieu et par la prière. Et je reviens à la parole qui a été écrite là, ne crains pas. Est-ce que vous partirez ici avec une crainte? Qui est-ce qui vous dit ne crains pas? C'est Jésus lui-même, et on peut le croire. Car tout ce qu'il a dit, il l'a accompli. Ne crains pas. Pour quelle raison ne pas craindre? Car je suis ton Dieu. Vous devez connaître Dieu. C'est cela dont nous avons besoin. Le connaître, mais d'une façon vivante, d'une façon intime, d'une façon personnelle, et de nuit et de jour, dans tous les domaines. Mais cette connaissance, nous la trouvons dans la lecture de la parole. Et on s'approprie les versets de la parole. Et quand on a ce verset, on va à Dieu avec ce verset. C'est la base de la prière. Ne crains point, je suis ton Dieu. Je sais où je vais auprès de mon Dieu. Ne sois pas inquiet. Pourquoi serions-nous inquiets? Je vous l'ai dit hier, je crois. Mes inquiétudes, je les considère comme des péchés, parce que c'est une désobéissance. Quand je m'inquiète, je n'ai plus la même confiance en Dieu. Alors, puisqu'il a dit ne vous inquiétez de rien, et c'est Jésus qui a repris cela, mais en toute chose, exposez vos prières à Dieu par des supplications. Et les supplications que l'on fait au nom de Jésus, elles sont exaucées. De sorte que, avant même d'avoir reçu la chose, nous lui disons merci. Et nous sommes dans la reconnaissance, et non pas dans l'inquiétude. C'est tellement merveilleux, cette promesse. Ne crains point, car je suis ton Dieu. Ne sois pas inquiet. Et puis, la suite. Je te fortifierai. Il est la source de notre force. Et nous la recevons quotidiennement, heure après heure, moment après moment. Je te fortifierai. Et comme si ça ne suffisait pas, il nous dit, je t'aiderai. C'est extraordinaire. Son aide à tout moment est finalement la dernière promesse. Je te soutiendrai. Je t'aiderai, je te fortifierai. Je te soutiendrai par ma droite triomphante. Et le Seigneur a triomphé de tout, même de la mort. Dieu notre Père, tu nous rappelles dans cette journée tes promesses, et nous les croyons, en attendant ton retour. Et tu nous dis que c'est dans peu de temps. Et nous croyons que nous sommes arrivés dans les derniers moments de ce peu de temps. Et que, à ta venue, quand nous te verrons en un instant, nous serons transformés à ton image et à ta ressemblance. Alors, Seigneur Jésus, toi qui nous as aimés le premier, toi qui nous voudrais auprès de toi, nous te disons, viens, Seigneur Jésus. Nous te remercions de nous donner encore ces quelques heures dans cette journée et nous te demandons ta bénédiction sur toutes les âmes qui se trouvent ici et que tu nous donnes ta force pour terminer cette dernière retraite. En Jésus-Christ.